Au moins, j'arrête là.
Non, tu vas pas arrêter acte 1, scène 1. T'aimes pas le théâtre, en fait.
Je m'ennuie un peu, je fais un peu chier.
Levée de rideau. Mise en scène par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Déjà, un spectateur, c'est pas beaucoup. Si en plus il dort...
Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, j'ai le plaisir d'être avec Amélie Casasol. Bonjour.
Bonjour.
Alors, à votre bureau, parce que vous êtes un peu débordée en cette fin d'année pour tout organiser, parce que ça n'arrête pas au Théâtre de Nîmes. Hein. Vous avez une programmation riche et variée, comme on dit.
Bah oui, là, on finit. C'est toujours chargé, en fait, avant les fêtes de fin d'année, et puis surtout au Théâtre de Nîmes, puisqu'on enchaîne à la rentrée tout de suite, très vite, avec le Festival Flamenco.
Alors, on pourrait dire, vous êtes arrivée en janvier 2022. C'est votre première saison complète là. Là,
exactement.
Vous êtes livrée à vous-même. Là, vous faites ce que vous voulez.
Voilà, on peut dire ça comme ça.
Avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. J'ai l'impression que vous épanouissez dans ce théâtre. Vous étiez très bien avant là où vous étiez, mais j'ai l'impression que ce théâtre vous convient bien.
Eh bien, c'est un très très beau lieu. Ouais. Et il y a une très, très belle équipe et un public très nombreux. Il y a beaucoup de diversité, je trouve, dans les publics en fonction de la programmation et avec des salles pleines. Donc, je pense que les gens qui fréquentent le théâtre de Nîmes s'en rendent compte.
Ah ben après le jocage, là, c'était bondé. Même les strapontins,
mais pas que. En fait, on a été complet sur pratiquement tous les spectacles depuis la rentrée. Donc, ça rend tout le monde heureux. Moi bien sûr, mais aussi l'équipe, et puis je pense pour le public aussi,
pour le public.
Les artistes bien sûr, hein, sur scène c'est très plaisant pour eux de voir cette salle, l'engouement du public, le bar qui fonctionne très bien et qui fait qu'il y a énormément d'échanges avant et après le spectacle. Les artistes viennent, il y a des échanges. Je pense qu'il y a un côté convivial qu'on a beaucoup travaillé avec l'équipe, enfin pour moi, qui me tenait vraiment à cœur. Et ça a été petit à petit une montée en charge, et je trouve que là, ça y est, on commence à avoir le visage que j'imaginais pour le théâtre, un théâtre ouvert.
Et, oui. Voilà. Et c'est vrai que très divers, hein, ceux qui disent qu'il n'y a pas de théâtre, c'est faux, vous allez le démontrer. Mais il y a du cirque, il y a beaucoup de choses, il y a de la danse, il y a beaucoup de scolaires, hein, et j'ai remarqué qu'ils sont très attentifs. Alors, est-ce qu'ils sont mieux préparés par leurs enseignants? Je ne sais pas, mais il y a vraiment une attention, et c'est très bien parce que c'est le public de l'avenir. Et ça me fait le lien avec cette heure des kids, hein, parce que ça vous tenait à cœur quand je vous avais rencontré à votre arrivée. Vous avez dit j'y tiens beaucoup.
Oui, bah, je pense que c'est très important d'être attentif au jeune public et à avoir une offre. J'allais dire de grande qualité pour les enfants, parce que c'est vrai qu'on dit souvent c'est le public de demain, mais c'est aussi le public d'aujourd'hui. Et puis soigner la programmation pour le jeune public, c'est aussi travailler pour les familles, parce que bien sûr il y a les parents, les grands-parents, grands-frères, grandes-sœurs qui accompagnent, et pour moi c'est vraiment aussi s'adresser à un public familial, et pour ça il faut avoir des spectacles avec plusieurs entrées de lecture, et je trouve ça toujours intéressant quand on emmène son petit de 3 ou 4 ans, en tant qu'adulte, d'y trouver aussi du plaisir, en fait, et de la poésie. Donc, c'est une partie de la programmation à laquelle je suis très attentive.
C'était la deuxième, heure des kids. Et exactement. Ça a bien marché.
Ça a bien marché. On s'est rendu compte que ça marchait vraiment très bien aussi pour les tout-petits, parce qu'on a fait un spectacle pour les bébés, les 6 mois, 3 ans, on va dire, la toute petite enfance. Et ça a été, j'allais dire, pris d'assaut. Donc, on se dit que pour la prochaine édition, on va quand même continuer à travailler ce segment de la toute petite enfance. Parce que pareil, c'est de l'émerveillement, de la poésie. Bien sûr, on peut toujours se dire que les bébés ne se souviendront pas, mais en fait, c'est de l'éveil.
C'est de l'éveil. Moi, j'en avais vu beaucoup de ces spectacles au Périscope. Le Périscope avait fait beaucoup. Et c'est vrai qu'on se dit à 6 mois, mais ils entendent, et puis c'est intuitif, c'est emmagasiné, on ne sait pas
ça.
Où, mais...
Ah ben, je trouve que le spectacle, d'ailleurs, il est quand... moi, j'adore assister à ce genre de représentation. Il est bien sûr sur scène, puis on adore regarder les enfants qui sont complètement émerveillés. émerveillés, on se dit mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Donc voilà, moi ça m'intéresse, oui. et bien sûr on ne peut pas en faire toute l'année, parce que voilà, c'est
mais les vacances
organisé,
de Toussaint c'est bien, c'est...
mais pour les vacances de la Toussaint, voilà, on a trouvé que c'était intéressant et ça a été bien.
Là, j'ai souvent assisté au concert pédagogique des Volques au théâtre, et cette année c'était Salteris, et ce matin c'était un des concerts pédagogiques, et c'était les classes de maternelle.
Mais oui,
alors 300 petits comme ça, de 3 à 6 ans, très réactifs. À un moment ils disaient c'est la pluie, 300 personnes qui font
c'est magique.
On a autant de plaisir, comme vous dites, à regarder les enfants que de regarder la pièce, qui était excellente. Alors, on passe vraiment aux extrêmes, parce que entre les enfants et, moi j'appelle ça un marathon de 5h30, enfin ayant fait Avignon depuis très longtemps, j'ai vu des pièces très longues, mais je crois que c'est la première fois au Théâtre de Nîmes, 5h30. Oui. Et l'art de la joie, et vous l'aviez vu, et ça vous avait conquis, ça vous avait...
Oui, disons que je connais la metteuse en scène depuis un certain nombre d'années maintenant, et voilà, à l'occasion d'une rencontre où elle venait me parler de sa précédente pièce, qui était déjà un très très beau projet, une adaptation de Viripaef, qui s'appelait Ivre. Voilà, on parlait de prochains spectacles, et puis je lui ai parlé d'un roman en fait qui s'appelle L'art de la joie de Roberta Sorrentino, et elle connaissait pas le roman. Je lui ai dit écoute, ça vaut le coup que tu lis, c'est un magnifique roman. Et elle a lu
beaucoup
le roman, voilà, c'est un pavé de 700 pages, et quelques jours après, parce qu'elle l'a lu très vite, elle a plongé avec passion dans ce roman, et quelques jours après, elle m'a appelée en me disant, écoute, c'est génial, j'adore ce roman, je vais l'adapter au théâtre. Alors, je me sens très, très liée à ce projet.
Alors, je vous rencontre après, parce que cette pièce, c'est complet.
C'est complet.
Très complet.
Et surtout, la pièce a été créée, donc je l'ai vue effectivement l'an dernier. Donc c'est 5h30 et encore, elle n'a pas adapté toutes les parties du roman. Et en fait, c'est une magnifique réussite. Voilà, moi je parlais de la genèse, mais après on ne sait jamais comment le metteur en scène va s'emparer.
Bien
surtout
sûr,
adapter un roman, c'est quand même complexe. Ce n'est pas une pièce à la base. Et en fait, l'adaptation dès la création a été saluée comme une réussite. Et l'an dernier, toutes les dates ont affiché complet, que ce soit à Paris ou en province. Et c'est un spectacle absolument incroyable, en fait. Il y a énormément d'émotions qui passent. On suit cette héroïne de la petite enfance jusqu'à la maturité, avec toute une galerie de personnages et des comédiens de grand charisme.
Et l'art
beaucoup
de la
de
joie en période de fête.
Oui.
On a besoin d'espérance en ce moment. On a besoin de gaieté. On a besoin d'espoir, de joie.
Oui, disons que l'héroïne de ce roman passe par des moments extrêmement difficiles, mais justement, elle cherche toujours elle est toujours dans la force de vie, en fait. Donc, elle surmonte des difficultés, une vie chaotique, puisqu'on traverse tout le XXe siècle. Donc, il y a quand même deux guerres à traverser. Hein,
oui.
Siècle en Sicile, plus une révolution, mais on est vraiment dans quelqu'un qui prend en main son destin et qui va jusqu'au bout pour accomplir des choses, et qui pense aussi beaucoup au collectif. Voilà, c'est vraiment une trajectoire de vie passionnante, et c'est ce qui fait aussi la force à la fois de ce roman, mais aussi de cette pièce.
Alors, on voit vos goûts personnels, hein. C'est juste un petit aparté sur les difficultés de composer une programmation, mais vous avez l'habitude, donc qu'est-ce qui a changé pour vous en étant ici, en étant à Nîmes? Ça n'a pas... Rien.
Disons que voilà, moi je fais j'allais dire que c'est une continuité dans ma carrière professionnelle. Ça fait plus de 20 ans que je dirige des théâtres et que j'élabore des programmations avec des couleurs parfois différentes. Par exemple, à Nîmes, c'est une scène conventionnée pour la danse contemporaine.
Oui.
Donc forcément, je vais être plus attentive à la danse contemporaine, à la création pour des compagnies, notamment des compagnies régionales. Ça fait partie de notre cahier des charges, hein, avec le ministère de la Culture. Mais comme vous le voyez, c'est une scène pluridisciplinaire.
Bien
et moi,
sûr.
Je suis beaucoup dans une ouverture, justement, Bien sûr, on est traversé par ses goûts personnels, mais c'est pas ce qui me conduit de manière principale. Disons que j'essaie au contraire d'être dans des esthétiques différentes pour que
tout le monde y trouve son compte.
Voilà, exactement.
Et voilà, de plus jeune, au plus âgé, et de tous les genres.
Hein, disons que j'oublie jamais, voilà, qu'on est un théâtre, que c'est un théâtre qui appartient à tous les habitants. Et que il faut, pour moi, la réussite, c'est que tout à chacun moment ait envie de passer la porte et envie de découvrir et soit curieux, parce que quand on a passé un bon moment, disons,
on revient.
Voilà, il y a des gens qui disent, moi j'aime pas la danse, je vais voir que du théâtre, et puis finalement qu'on vient une ou deux fois, qu'on a vraiment passé un bon moment, puis on se dit, allez, on se laisse tenter en fait. Oui. Et je pense que voilà, l'intérêt, en tout cas. Moi, ce que je recherche, c'est au contraire que les gens aient envie de faire des pas de côté.
Bien sûr.
Et pour ça, il faut proposer une diversité.
La curiosité.
Exactement.
Alors, avant de parler du flamenco, parce que là aussi, c'est tout de même... Même si vous aviez programmé des spectacles flamenco, là, la 35e édition, c'est tout de même quelque chose d'important. On va tout de même écouter, avant de parler du flamenco, la bande-annonce de L'Art de la Joie qui est passée donc hier.
Et voyez, me voici à 4-5 ans, traînant un bout de bois immense dans un terrain boueux. Il n'y a pas d'arbres ni de maisons autour. Il n'y a que la sueur due à l'effort de traîner ce corps dur et la brûlure aiguë des paumes blessées par le bois. Je m'enfonce dans la boue jusqu'aux chevilles, mais je dois tirer. Je ne sais pas pourquoi, mais je dois le faire. Laissons ce premier souvenir tel qu'il est. Ça ne me convient pas de faire des suppositions ou d'inventer. Je veux vous dire ce qui a été, sans rien altérer.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous continuons on a intitulé l'émission de 2024 à 2025, puisqu'on est en fin d'année, entre décembre 24 et janvier 25. Donc se profile le 35e Festival Flamenco, un grand moment de cette programmation, et j'ai l'impression que la 35e, elle est... costaud, comme on dit.
Oui, c'est vrai que je dois avouer qu'on avait envie de marquer les esprits avec cette fête, cet anniversaire du festival. Et surtout, voilà, moi, depuis que je suis arrivée, comme je vous le disais, j'ai envie d'ouvrir en fait le théâtre sur la ville. Et on a développé des rendez-vous gratuits en extérieur ou dans d'autres lieux culturels, notamment dans des musées. Et voilà, donc c'est sûr qu'entre la programmation salle et la programmation en extérieur, on a une programmation bien étoffée.
Alors, j'ai rencontré la compagnie Dynamogène, Pierre Pellissier et Pépé Martinez, qui sont venus au studio donc nous présenter. C'est encore pas tout à fait construit pour cette Carmen Cicletta. Et pareil, on va vraiment de la déambulation dans la rue jusqu'au spectacle acoustique, enfin au concert acoustique. Donc là aussi, il y en a pour tous les goûts. On dit toujours le flamenco, c'est trois choses. C'est le chant, la danse et la guitare. J'ai l'impression que les trois sont à égalité, là.
Oui, alors il y a toujours quand même, faut dire, il y a toujours un peu plus de danse quand même dans le festival flamenco de Nîmes, mais en tout cas ces dernières années. Mais on a de plus en plus équilibré. Hein. On a quand même, on est attentif à avoir aussi des propositions musicales et de grande qualité. Hein. Voilà, on a vraiment des chanteurs de premier plan et pareil à la guitare, l'Antonio Rey qui vient de gagner les Latin Grammy Awards. Enfin, on est toujours à la pointe. C'est l'ADN du festival flamenco.
À la pointe, il y a la diversité du flamenco électro jusqu'au plus classique.
À Paloma. Enfin, là, vraiment, c'est vrai qu'on a une programmation. Je pense que pour tous les passionnés, on a tous les grands acteurs de la scène actuelle, en fait. Hein, que ce soit de la danse, de la musique, on est vraiment au top. Donc, on a toujours, je pense, cette petite signature danse, mais qui est liée au lieu aussi, une fois de plus, hein, qui est conventionnée pour la danse. Et le public, je pense, apprécie beaucoup aussi. On va avoir le grand ballet de flamenco, d'Andalousie. Enfin, c'est vraiment
Israël Galvan, Israël Galvan,
Rocio Molina, qui vient avec un triptyque. Donc, on a vraiment.
C'est une édition, un anniversaire qui se marque. Et puis, avec cette nouveauté, cette affiche qui rend vraiment avec ce qui s'était fait avant, qui était très bien, mais là, il y a vraiment une autre patte, je dirais.
Oui, on avait envie de confier la création à une jeune artiste qui vit en Espagne, qui est française, mais qui vit en Espagne et qui est passionnée de flamenco, donc Marjorie Nastro. Et on aimait bien ce côté qu'elle jouait avec les codes. J'avais plusieurs affiches où elle s'emparait comme ça d'éléments architecturaux des villes où elle passait. Et je me disais, Nîmes, avec vraiment ce patrimoine absolument incroyable, c'était intéressant d'un petit peu jouer avec la maison carrée, les arènes et tous les attributs du flamenco. Et je pense qu'elle a bien réussi, parce que c'est une affiche qui est assez gaie, qui est assez lumineuse.
Et elle est en grand sur les arènes. Hein. Donc, si on ne la voit pas, c'est que vraiment, on a un problème.
C'est qu'on a un problème de vue.
C'est pareil, elle expose au CACN. Et donc, je l'ai rencontrée ou je la rencontrerai également. Donc, pour bien couvrir ce festival flamenco. Et puis, le flamenco... la danse, le chant et puis les femmes. Hein, les femmes qui sont peut-être de plus en plus visibles dans ce... Je ne dis pas uniquement dans le flamenco, dans la musique, on a de plus en plus de femmes. Et on a choisi un morceau de Maria Torremoto qui chante avec toute sa flamme, on va dire. part sur Radio Alliance Plus avec Amélie Casasol, directrice donc du théâtre de Nîmes. Je lui avais dit, enfin je vous ai dit que moi j'entendais des bruits. Oh, il n'y a pas assez de théâtre, théâtre de Nîmes. Il m'a dit, mais c'est pas vrai. Donc on va terminer l'émission avec les grandes dates du théâtre à partir de janvier, hein, le 23 janvier. Et ça vous tient à cœur, ce théâtre?
Oui, parce que c'est vrai, comme je vous le disais tout à l'heure, on est bien sûr une scène conventionnée pour la danse. Donc, il y a toujours cette histoire qui est liée au théâtre de Nîmes. Et on le voit d'ailleurs, on a vraiment un public danseur à Nîmes. Hein, vraiment des passionnés qui viennent.
Ben, c'est bien.
Donc ça, ça fait toujours plaisir. mais voilà, c'est important aussi de diversifier la programmation. Donc là, sur la deuxième partie de saison, on peut dire qu'on a grands rendez-vous, j'allais dire, avec une écriture exigeante et des metteurs en scène bien identifiés. On aura tout de suite après le flamenco le procès de Jeanne avec Judith Chemla, mise en scène par Yves Bonnen, et ça c'est un grand moment de théâtre. Alors c'est déjà complet, mais bon, on peut s'inscrire sur liste d'attente. Parfois, on arrive à faire rentrer du monde.
J'ai vu pour près le Jocard, j'avais rencontré des amis qui sont arrivés tôt, à 6h30, mais qui ont pu rentrer.
Oui.
Donc, il faut être patient.
Il faut être patient.
Ça se mérite.
Mais on peut y arriver, voilà. Il ne faut pas se décourager.
Ça dépend du temps, de la météo.
Exactement. Mais en janvier, il y a peut-être une chance que ça passe. Donc, le procès de Jeanne, ça, c'est un très, très beau rendez-vous de la rentrée. Mais je pourrais vous citer sur d'autres écriture, le CID de directeur du TNP qui est Jean Bellorini, donc un des grands noms du théâtre français, qui a fait une magnifique adaptation du CID, qui a rencontré un très grand succès l'an dernier au festival de Grignan.
Au château de Madame de Sévigné.
Exactement.
Voilà, j'ai eu un doute.
Donc, pour les curieux, vous pouvez
c'est
voir
beau,
la presse.
C'est très beau sur ces gradins en plein air.
Le site est magnifique.
Ah oui, ça.
Pour les passionnés de théâtre. Ouais. Et donc, c'est là qu'il a créé le CID l'an dernier.
D'accord.
Donc, il viendra pour deux dates, les 3 et 4 avril. Et ça, c'est un grand moment de théâtre. Et Jean Bellorini, c'est vraiment un grand metteur en scène. Et c'est assez passionnant de suivre son travail. Il y a toujours une scénographie assez audacieuse et très travaillée. Donc là, c'est un beau CID.
Donc, ceux qui disent qu'il n'y a pas assez de théâtre, ils ont tort.
Voilà, il y a d'autres dates, je ne vais peut-être pas égrainer tous les noms, mais on a aussi une très belle pièce de Marc Lenné, dans des écritures d'aujourd'hui, Nos paysages mineurs et En finir avec leur histoire. C'est un diptyque, là aussi, deux pièces de théâtre dans la même soirée, une heure et demie la première, je crois, une heure la deuxième, une magnifique histoire d'amour. Et là également, une mise en scène absolument époustouflante avec des comédiens incroyables, une très très belle histoire. Donc voilà, il y a d'autres rendez-vous théâtre, mais là je dirais que c'est les trois
grandes dates.
À ne pas rater sur la grande salle.
Alors il y a bien sûr d'autres, là on a choisi ensemble des axes pour cette émission, mais il y a beaucoup d'autres choses. Et je suppose que la programmation 25-26, c'est déjà, sinon finie, tout au moins...
Elle n'est pas finie. J'aimerais mais non, il y a encore du travail.
Bien avancé.
Oui.
Et ça vous êtes conforté dans vos choix ou toujours la diversité, un certain équilibre malgré tout entre les genres?
Exactement, c'est toujours un équilibre puis alterné entre le théâtre, la musique, la danse. Il y a des choses, bien sûr, je connais un petit peu mieux le public maintenant, donc ça me permet aussi dans certaines esthétiques où là je pouvais avoir peur, par exemple pour j'allais dire n'importe quoi, de la danse, de me dire est-ce que je prends une ou deux représentations, voire trois. Typiquement, Prêche Locage, on aurait pu faire trois représentations. Deux étaient pleines. Donc voilà, comme je vous disais, il y a un public danse, ça c'est une évidence. Donc voilà, on va continuer bien sûr, hein, puis c'est une fois de plus notre ADN. Et puis sur le théâtre aussi, je sens une grande curiosité du public. Ça marche très bien à l'Odéon aussi, notre petite salle qu'on aime beaucoup.
J'aime beaucoup cette salle.
Tous les gens qui la fréquentent.
Je l'ai connue la première année où je suis arrivée à Nîmes, elle était encore forme cabaret, avec des tables, c'était assez étonnant, et même pour le flamenco, ça faisait un peu café, c'était intéressant. Mais là, bon, c'est vrai que c'est pas très confortable, les chaises de l'Odéon.
seul bémol, mais par contre, on a un rapport d'intimité avec les artistes qui est hyper plaisant, en fait. Donc, on va continuer à faire du théâtre à l'Odéon, avec des formes peut-être plus contemporaines, des compagnies plus jeunes. Mais comme voilà, on a fait le plein cette année avec des propositions, ça nous conforte aussi dans cette idée de continuer.
Puis les spectacles pour enfants sont plus intimistes. Hein. C'est une petite scène, c'est plus facile tout de même.
C'est plus facile, puis même plus agréable pour eux, parce que des fois, les tout-petits, notamment, peuvent être angoissés dans la grande salle, dans le noir, hein, pour avoir plus accès au public. Et puis, bien sûr, dans la grande salle, bah, continuer avec des belles formes performatives, en cirque, des grands noms du théâtre, aussi un peu de divertissement. Cette année, par exemple, on a Payanotis Pasco ou les Seagulls, où là, on est plus sur un registre humoristique. Et je pense que c'est bien aussi une à deux fois dans l'année d'aller aussi un peu sur de la légèreté. Je pense que venir au théâtre, c'est aussi se détendre et prendre du plaisir, quel que soit son âge.
Et puis ne pas avoir comme argument, je n'ose pas aller au théâtre parce que c'est trop compliqué pour moi.
L'idée, c'est d'être vraiment toujours sur des spectacles de qualité. Comme je disais, sur l'humour, moi, je suis attentive à ce qu'il y ait une écriture, à ce qu'il y ait vraiment une recherche de mise en scène, un jeu d'acteur qui soit soigné. Et puis
un peu de message, parce que même par le rire, on peut... Et peut-être surtout
souvent,
par le rire.
On passe des choses effectivement bien importantes, profondes, avec légèreté. Donc mais avec ce type de spectacle, là, on va des fois faire venir des personnes qui ne seraient pas venues.
Oui, parce qu'il y a toute une politique de public empêché. Il y a aussi pour les malentendants, les malvoyants. Oui. Enfin bon, c'est très très divers et je vous remercie. Pour cette saison donc 2024-2025, là on est juste au milieu. Et puis on attend ce festival flamenco avec impatience. Donc profitez bien des vacances de Noël, parce que je crois que le festival, la 35e édition, ça va être dense.
On ne va pas beaucoup se reposer, donc on va essayer de prendre un peu de repos pour être en forme.
Il faut accueillir les compagnies, enfin c'est toute une gestion. Il n'y a pas de spectacle.
On a deux week-ends de spectacle plus la semaine, donc ça va faire presque 15 jours non-stop pour toute l'équipe.
Mais ça vaut la peine. Et puis quelle réputation, je veux dire, c'est vraiment... Oui. Et puis il y a des conférences, il y a des masterclass, il y a plein de choses.
Oui, cette année, là, on a vraiment diversifié, on est très, très heureux. Il va falloir se mettre à l'espagnol. Les Nîmois se mettent à l'espagnol. Il y aura beaucoup d'espagnols dans les rues de Nîmes les 15 premiers jours.
Et puis en mars, ce sera les écrans britanniques. Donc vous voyez, c'est une ville internationale.
Complètement.
Merci à vous. À très bientôt et belle fête de fin d'année.
Merci beaucoup.